Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Alternante FM. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce second rendez-vous de Prisme. Ce matin, on va parler spiritualité, on va parler mission de vie. C'est un sujet qui fascine autant qu'il dérange. On voit de plus en plus de vidéos, de livres sur ce sujet. Mais c'est quoi vraiment la spiritualité? Et comment est-ce qu'elle peut nous aider à changer notre regard sur notre quotidien? Comment est-ce qu'elle peut aussi nous aider à mieux être à l'écoute de nos ressentis et à donner du sens à notre vie? Alors ce matin, on va essayer d'aborder cette question et donner quelques pistes de réponse avec une jeune femme qui connaît plutôt bien le sujet puisqu'elle l'a expérimenté pour elle-même et qu'elle le partage aujourd'hui en vidéo sur YouTube et dans un livre qui vient juste de paraître et qui fait un carton « Trouver et réaliser votre mission de vie » aux éditions Exergue. Je suis donc très heureuse d'avoir en ligne depuis Paris Jenna Blossoms, enseignante en développement personnel, spirituel et intuitif. Bonjour Jenna, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Astrid, et je suis ravie d'être avec toi et avec vous tous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Donc dans un premier temps, dans une première partie, on va revenir un petit peu sur ton histoire. Après, on ira un petit peu plus sur ton livre et ce que tu développes. Donc avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Bien sûr. Alors, donc moi, je suis Jenna Blossoms. Je suis aujourd'hui coach et enseignante, si on peut mettre des étiquettes comme ça, en développement personnel et spirituel. Je suis aussi l'auteur d'un livre sur la mission de vie et conférencière. J'anime des ateliers, des conférences et je propose des formations également en ligne sur mon site et mes plateformes. Et je suis tombée dans le développement personnel et la spiritualité depuis déjà quelques années. Ça a été un chemin, je pense qu'on va peut-être en parler ensemble ce matin.
Tout à fait.
Mais voilà ce que je fais aujourd'hui.
Et juste avant d'aller un petit peu justement sur ce chemin qui t'a emmené vers la spiritualité, est-ce que tu pourrais nous définir pour toi ce que c'est que la spiritualité? Puisqu'on va, ça va être vraiment le gros sujet de notre émission de ce matin. Comment tu la définirais?
Alors, la spiritualité, c'est un sujet passionnant et c'est une bonne question que tu me poses. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est un chemin intérieur. C'est, je crois, sortir des dogmes qui peuvent préexister. À nous-mêmes, à nos réflexions, à notre chemin de vie. Et au lieu d'aller chercher des réponses à l'extérieur, c'est aller se poser des questions et essayer de trouver les réponses à l'intérieur. C'est, je crois, suivre un chemin qui est le nôtre et qui n'est pas un chemin dans lequel on va rentrer, une case dans laquelle on va rentrer, je pense, par différence avec une religion ou avec un chemin religieux quel qu'il soit. Non pas qu'il y ait de mal à ça, mais je crois que la spiritualité peut être un chemin personnel, un chemin de réflexion intérieure qui nous amène à nous poser des questions et aller chercher du sens, en fait. Je crois que c'est une quête de sens pour notre vie personnelle et puis aussi pour comprendre d'où on vient, ce qu'on est venu faire ici sur Terre et se donner également des repères, se donner également une ligne de vie, de conduite, essayer de comprendre nos mécanismes et de comprendre le monde qui nous entoure en remettant du sens dans tout ça. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est donc un chemin de vie, un chemin surtout intérieur dans lequel on est à l'écoute de nous-mêmes avant tout.
Et alors justement, qu'est-ce qui t'a amené toi vers ce chemin intérieur, vers ce chemin de vie, vers cette spiritualité? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Est-ce que c'est dès toute petite que tu as été très sensible à ça? Ou est-ce qu'il y a une rencontre déterminante qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es plus centrée justement sur ces questions-là?
Alors en fait, moi je suis née dans une famille d'origine italienne par ma mère, donc j'ai grandi avec quand même une sensibilité, on va dire, au monde de là, au monde des esprits. Il y a aussi une partie très, très intuitive de recevoir des choses ou qui allaient se passer ou à travers les rêves, par exemple. Donc, même si ce n'était pas au cœur de nos discussions quotidiennes, c'est quelque chose qui existait dans mon quotidien, dans mon environnement dès petite. Et puis ensuite, c'est vrai que ma famille et moi-même, notre chemin commun a fait que de plus en plus, par des événements aussi de famille, perte de certains êtres chers, il y a eu des contacts plus rapprochés avec la spiritualité. Une personne de ma famille qui s'est mise à faire de l'écriture automatique, un peu contre son gré au début, qui s'est mise à recevoir beaucoup de messages de son fils décédé et de l'au-delà. Et puis moi, grandissant avec ça, c'est un sujet qui m'intéressait déjà beaucoup. Et adolescente, j'ai commencé à m'intéresser davantage à toutes ces questions-là, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Mm-hmm. Je me posais déjà des petites. Et puis j'ai fait mon chemin à moi aussi, en parallèle aussi avec celui de ma famille, en tout cas de certaines personnes de ma famille, où on commençait à en parler beaucoup plus, à être beaucoup plus connecté à toutes ces choses-là. Et puis est venu un temps où j'ai cessé, on va dire, d'être uniquement dans c'est les autres qui sont connectés et pas moi. Et quand j'avais, on va dire, 19-20 ans, j'ai vécu beaucoup de transformations personnelles. J'ai compris qu'il y avait toute une partie de moi que je niais, que je bloquais, parce que je m'entêtais à être plus dans la réalisation, dans l'action, dans les études, dans la recherche d'une reconnaissance sociale également, et que je m'empêchais, en fait, je bloquais une partie de moi qui était de l'ordre de la sensibilité, qui était de l'ordre des émotions et de l'intuition, parce que tout ça, c'est même énergie qui était la voix de mon cœur d'une certaine manière, une partie que je ne voulais pas voir parce qu'elle me faisait un peu peur, parce que elle m'était désagréable, elle me gênait. Et quand j'ai commencé à accepter que le chemin que j'avais pris n'était pas celui de mon cœur, et bien là, le canal s'est rouvert, si je puis dire, et l'inspiration est venue très fort. Ça a été le début de mes moments d'écriture aussi, d'où est ensuite né le livre. Et puis beaucoup d'intuition qui est revenue, beaucoup de clairaudience, de ressenti très fort et d'inspiration. Voilà.
Donc c'est quelque chose qui a vraiment grandi en toi depuis toute petite. Je voudrais juste te demander, parce que tu es jeune en fait aussi. Est-ce qu'éventuellement tu peux nous donner ton âge? Parce que là tu parlais que le déclic a été vers 19 ans, mais tu as eu quand même une grande sensibilité, une maturité aussi à ce niveau-là. Parce que là quel âge as-tu en fait?
Oui. Alors là, j'ai 24 ans. Je vais avoir 25 ans dans quelques mois. Donc oui, je suis encore jeune et je suis encore en train de découvrir aussi tout ça. Mon chemin est loin d'être terminé.
Mais déjà, un parcours assez impressionnant pour ton âge et une maturité à ce niveau-là où on a beaucoup à apprendre du chemin que tu as déjà fait. Et qu'est-ce que justement, toi, la spiritualité a changé dans ta vie depuis que justement il y a eu ce déclic vers 19 ans? Tu disais, il y a eu une prise de conscience sur certaines choses par rapport aux émotions, par rapport à cette quête de sens. Qu'est-ce que tu as pu voir dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as fait en particulier? Est-ce que tu t'es rendu compte justement que tu n'étais plus à ta place sur certaines choses? Est-ce que tu as mis en place... qu'est-ce qui s'est passé justement à la suite de cette prise de conscience?
Alors, je crois qu'il y a eu plusieurs déclics. Il y en a eu un premier lorsque j'étais adolescente où je me suis posé beaucoup de questions et j'ai commencé à lire... les écrits de Gandhi, donc ce qui n'est pas proprement dit spirituel, qui est plus des ouvrages, on va dire, historiques et philosophiques et éthiques. Il y a eu déjà beaucoup de prise de conscience à ce moment-là. J'étais une enfant qui lisait énormément, qui me posait beaucoup de questions, qui avait un avide besoin de connaissances et de réponses. Et déjà, en m'ouvrant à la philosophie orientale et à la non-violence, qui a été déjà un premier déclic, ça m'a pu me donner aussi un cadre, disons, d'action. Et je crois que c'est ce que l'homme recherche de manière générale, ou dans une religion, ou bien dans une guidance morale, ce que les philosophes ont fait de tout temps, les philosophes de l'éthique, qui se donnent justement un cadre d'action. Qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal, qu'est-ce qu'est le juste et le non-juste. Donc, il ne s'agissait pas pour moi d'avoir des réponses binaires de ce qui était bien ou pas bien, mais il s'agissait de comprendre, de justifier ce monde qui peut-être ne faisait pas assez sens, de justifier les comportements des uns des autres et de justifier mes propres comportements. Donc il y a eu déjà des premières prises de conscience à ce moment-là où j'ai compris que je pouvais vivre en étant dans la non-violence, en étant à l'écoute et de moi et des autres, en essayant de vivre en harmonie avec le monde qui m'entourait. Déjà, ça a été un grand soulagement parce que moi qui me posais énormément de questions, qui me sentais pas tout à fait à ma place déjà dans ce monde assez particulier, assez chaotique de l'extérieur, on peut le ressentir parfois comme ça, ça m'a permis de donner du sens et de me sentir davantage à ma place. Et puis ensuite, quand j'ai vraiment compris que moi aussi, j'avais une dimension spirituelle, comme nous en avons tous une en nous, à ce moment-là, j'ai pris la décision intérieure très profonde, je me rappelle, j'avais 18 ans, que je décidais d'être heureuse. Je n'attendais pas une situation particulière, je n'attendais pas que des crises se résolvent ou que des certaines choses alignées dans ma vie, j'avais pris la décision que je serais heureuse quoi qu'il arrive. Et c'était une période assez de trouble par rapport à des deuils et tout ça. Et je me suis dit, bah, les émotions et la souffrance peut nous passer comme une tempête au-dessus de l'océan, mais dans le fond, l'océan est toujours calme. Et je m'étais dit, je me raccrocherai à ça, je décide que je suis actrice en fait de mon bonheur, je prends la responsabilité de mon bonheur. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que une chose s'est déclenchée en moi, un changement s'est fait et j'ai vécu les choses très différemment. J'ai ressenti les choses avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus de recul aussi, beaucoup moins de souffrance. Et puis, lors de ce troisième, j'ai envie de dire, déclic, qui a été de me rouvrir à ma propre part vraiment d'intuition et de réception et de canal, hein, j'ai envie de dire, de ces enseignements que je peux recevoir comme ça. J'ai envie de dire de l'univers, mais en fait, finalement, c'est notre part à tous d'inspiration, d'intuition. À ce moment-là, il y a eu encore davantage de choses qui sont changées, encore plus dans la matière, puisque ma vie a changé. J'ai pris un chemin qui était d'être indépendante, de travailler à mon compte, de me lancer vraiment dans ce que mon cœur m'appelait à faire depuis un certain temps, qui était de l'accompagnement, de l'enseignement. Et à ce moment-là, ma vie est devenue beaucoup plus fluide, agréable, et beaucoup, beaucoup de synchronicité, de choses magiques comme ça qui sont arrivées, de rencontres, de pierres posées au juste moment sur mon chemin.
Tu as trouvé ton chemin justement parce que, pour rappel, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu étais étudiante en fait avant de faire ce chemin-là et tu étais étudiante en sciences politiques, c'est ça ?
Oui, exactement. Donc moi, j'ai fait des grandes, belles études dans de grandes universités parisiennes prestigieuses de communication, de sciences politiques et de communication politique. Donc j'ai fait mon parcours jusqu'à la fin, j'ai fait mon mémoire en même temps que je commençais déjà à développer mon activité. J'ai aussi travaillé, j'ai travaillé toujours à côté de mes études, mais j'ai aussi travaillé dans une ONG, une grosse ONG, à la fin également de mes études. Et je m'étais dit, bon, je reste sur mon chemin, qui était celui de la suite logique de mes études, qui était dans la continuité du parcours, on va dire, traditionnel. Mais je voulais mettre également ma patte, mettre mon empreinte. J'avais envie, dans la case dans laquelle j'allais me mettre, d'essayer de mettre un peu de mes valeurs. Et mes valeurs, c'était d'essayer de changer le monde. Alors, ça peut paraître un peu grand et ambitieux, mais je voulais avoir, en fait, un impact, que ma vie ait un impact positif, que en me couchant le soir et a fortiori en mourant un jour, je me dise, j'ai participé à rendre ce monde un tout petit peu plus harmonieux, plus doux pour certaines personnes, et je voulais vraiment ressentir ça. Et c'est vrai que, même en travaillant dans cette ONG, donc qui avait un but, bien sûr, d'apporter plus de bien-être à ce monde et d'essayer de le guérir un tant soit peu, je me suis rendu compte que même en essayant intellectuellement d'apporter, de travailler dans un monde qui avait des valeurs qui correspondaient à les miennes, finalement ce n'était pas encore ma place, parce que c'est toujours été mon mental qui parlait, mon intellect, ma tête qui faisait les choses de façon raisonnable et logique, et pas mon cœur. Et quand j'ai commencé à écouter mon cœur, à écouter une partie de moi qui essayait de s'exprimer depuis longtemps, mais que j'avais complètement mise de côté, à ce moment-là, les réponses étaient beaucoup plus justes. Non pas les bonnes réponses, mais des réponses beaucoup plus adaptées à moi-même. Et j'ai senti que j'avais besoin d'être et libre et d'être beaucoup plus connectée à la spiritualité, au développement personnel, et de moi-même accompagner les autres dans ce cheminement-là.
Et qu'est-ce qui fait, justement, qu'à un moment, tu as eu envie de transmettre ce message aux autres ? Parce que je rappelle juste, mais ta chaîne YouTube, il y a 25 000 abonnés, que tu viens de sortir ton livre, que je rappelle, il s'appelle « Trouver et réaliser votre mission de vie ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, je transmets maintenant, j'ai fait ce chemin-là pour moi, maintenant je souhaite le transmettre aux autres ?
Alors, je crois que, justement, comme je l'explique notamment dans le livre, on a tous notre lumière, c'est-à-dire notre personnalité, notre richesse intérieure, ce qui fait qu'on est unique, notre essence. Et notre essence, elle a des capacités, des aptitudes particulières, je crois, qui ne sont pas des compétences, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on est naturellement prêt à faire, qu'on fait de façon spontanée et qui est vraiment l'émanation de qui on est. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Depuis très, très petite, j'ai toujours été celle qui explique aux autres comment on fait, celle qui répond aux questions, celle qui aide les camarades de classe quand ils n'arrivent pas à faire leurs devoirs, celle qui est un peu l'enseignante. J'ai toujours eu un peu ce rôle-là. Et je crois que dans qui je suis, j'ai vraiment cette aptitude naturelle. Encore une fois, ce n'est pas un don et ce n'est pas...
ça fait partie de toi.
Une qualité plus grande qu'une autre, ça fait partie de moi de communiquer. Et quand je regarde mon parcours, encore aujourd'hui, je sens que ça fait partie de moi, c'est-à-dire j'ai appris à parler très tôt, plutôt que la plupart des enfants, par exemple. J'ai appris à lire toute seule ensuite, j'ai toujours une fascination énorme pour les langues. J'ai appris à parler plusieurs langues, moi-même, dès petite. Et j'ai toujours aimé et parler, et exprimer, communiquer, à haute voix, à écrire, énormément écrire, lire. Donc je crois que les mots et la communication de manière générale font partie de moi. Mon chemin finalement est loin d'être terminé, j'apprends encore aujourd'hui, et je pense que si c'est un message que je peux aussi passer, c'est qu'il ne faut pas attendre de croire qu'on est arrivé, qu'on est prêt, qu'on a, ça y est, on a fait tout le chemin qu'on avait à parcourir pour pouvoir commencer à s'exprimer, pour pouvoir commencer à partager aux autres. Enseigner est un mot parfois qui peut faire peur parce qu'on... ça pose la question de la légitimité. Et finalement, on a tous en nous cette légitimité parce qu'on a tous en nous des aptitudes naturelles, je crois, moi, une lumière, c'est-à-dire des richesses intérieures à partager, qu'on n'a pas à gagner, qu'on n'a pas à attendre de la société qu'elle valide ces qualités-là. Il suffit de les reconnaître en nous et d'oser les partager avec le monde spontanément. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de partager tout ça? Je crois que ça s'est fait naturellement au fur et à mesure et que surtout, c'était presque plus fort que moi. C'est-à-dire, si je m'écoutais vraiment, si j'étais honnête avec moi-même, de partager, d'écrire, de parler, que ce soit à travers des vidéos, des formations, des conférences, des ateliers, par tous les moyens possibles, c'est juste ce qui me met en joie, l'émanation naturelle de qui je suis.
Partie de ta mission de vie, en fait.
Ça fait partie de ma mission de vie. Oui.
Donc, en seconde partie, justement, on va s'attarder sur toutes les pistes que tu peux évoquer dans tes vidéos, dans ton livre, pour définir justement sa mission de vie, trouver sa place dans le monde. Avant, on va faire une petite pause musicale. Moi, je t'ai demandé, et comme je demande à chaque émission à mes invités, de choisir une chanson ou une musique. Tu as choisi Cécile Corbel, Belfast. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la raison de ce choix?
Oui, bien sûr. Alors en fait, Cécile Corbel, c'est une artiste que j'adore vraiment, qui m'a touchée, que j'ai découverte dans un film d'animation des studios Ghibli, des studios d'animation japonais, le film Arrietty. Et c'est une joueuse en fait de harpe celtique qui chante également et qui est bretonne. Moi, j'ai aussi des origines bretonnes, des origines italiennes et des origines bretonnes. Et ça a été un coup de cœur d'âme, j'ai envie de dire. J'aime vraiment beaucoup sa musique, les vibrations, l'univers qui est derrière. Et cette chanson particulière me transporte, m'emmène et je pourrais l'écouter des heures, je crois, sans m'arrêter. J'avais envie de partager avec les auditeurs ce coup de cœur-là.
Et bien, on va la partager à l'instant. Merci Jenna, à tout de suite.
Merci, à tout de suite.
Son nom John Silver, mais elle a grandi ici. Ici, on traque à l'absence, on s'ennuie derrière le bar. Petit haut garçon avec sa guitare, qu'il joue un air de torrance. Ah 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 ah, retiens le temps qui se passe. Si je t'ai, alors
êtes toujours sur Alternante FM et ce matin on parle spiritualité avec mon invitée Jenna Blossoms, enseignante en développement personnel, spirituel et intuitif et qui vient de publier « Trouver et réaliser votre mission de vie » aux éditions Exergue. Tu es toujours avec nous Jenna ?
Oui, je suis toujours là.
Et merci de nous avoir fait découvrir Cécile Corbel, Belfast, qui est une magnifique chanson. Tout à l'heure, on parlait vraiment de ton parcours, avant justement de, autour de la spiritualité. Là, on va aller un petit peu plus au niveau de ton livre. Il nous reste 7 minutes, donc c'est vrai que ça passe très très vite. On va déjà revenir, alors tu l'as déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, mais plus précisément, c'est quoi vraiment une mission de vie en quelques mots ?
Alors pour moi, une mission de vie, c'est l'émanation naturelle de qui on est. C'est ce qui fait qu'on se sent à notre place sur Terre, dans le matin, lorsqu'on se lève, le sentiment qu'on est exactement là où on doit être, le sentiment qu'on peut partager, exprimer qui on est, nos qualités naturelles, ce qu'on aime faire naturellement, et que ça a un sens, qu'on se sent vraiment à sa place. C'est pas figé, c'est pas une case, une étiquette, un métier. C'est vraiment le sentiment d'être à sa place dans sa vie, le sentiment que on apprend, qu'on partage avec les autres et qu'on est là pour apporter un changement, pour mettre en place quelque chose. Même si c'est très petit, il n'y a pas besoin d'être Mère Teresa. Mmh. C'est vraiment le sentiment que ce qu'on fait et nos journées nous ressemblent vraiment.
Et c'est propre à chacun ?
Exactement. Mmh. Chaque mission de vie, finalement, est unique. C'est-à-dire que même si on peut avoir des chemins de vie similaires, des métiers pareils, on a une vibration qui est unique. On a une façon de parler, de dire, de faire. On a une façon d'être avec les autres. Une énergie qui est propre à chacun et qui fait que peu importe ce qu'on fait, lorsqu'on est pleinement nous-mêmes, lorsqu'on est aligné, qui est un terme que j'aime beaucoup pour parler de la mission de vie, eh bien justement, on peut le faire, on peut toucher des personnes qu'on a besoin de toucher, on peut le faire avec notre propre vibration, notre propre énergie. C'est pour ça que chaque mission de vie est unique, sur mesure, et qu'on a tous une mission de vie. Et que c'est quelque chose également qui nous met en joie. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas s'oublier et souffrir pour servir le monde, pas du tout. C'est s'écouter, écouter l'appel de son cœur et faire des choses qui nous font vibrer.
Oui, tu parles d'ailleurs de notion de GPS du cœur dans ton livre et que je trouve très très jolie. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas se lancer, qu'on ne s'autorise pas justement ? Tu parles aussi de notion de croyance limitante. Est-ce que tu peux, qu'est-ce qui fait que des fois on se retient en fait de se lancer dans cette mission de vie ?
Alors je crois que déjà on n'a pas été habitué depuis très petit à écouter notre cœur, à écouter notre créativité, notre intuition. On écoute depuis très petit notre mental, ce qui est logique, raisonnable, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, quelque chose qui est très rigide et encadré. Et ce qui fait qu'on n'est plus tellement habitué à entendre cette autre partie de nous-mêmes qui est davantage dans la spontanéité, l'intuition, la créativité. Et ce qui fait qu'on a du mal à s'écouter, à trouver et à réaliser notre mission de vie, c'est déjà les peurs, hein. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, du manque financier, de la non-sécurité, de la non-stabilité. On s'identifie à ces peurs. Et puis, il y a effectivement les croyances limitantes, qui sont en fait des croyances qu'on a depuis petit. Moi, de toute façon, je suis timide, ou bien je ne pourrai jamais faire ça car je ne suis pas légitime, ou bien si je me lance, je vais perdre mon argent et je vais galérer. Toutes ces croyances qu'on a sur nous, sur la vie, sur le monde, qui finalement nous limitent parce qu'elles conditionnent et notre façon de voir le monde, et nos actions, et notre façon de parler, et même de penser. Et lorsqu'on met le doigt sur ces croyances limitantes, lorsqu'on arrive à les dépasser, à se désidentifier à elles, alors on peut voir le monde d'une autre façon. Et je crois que vibratoirement également, les choses changent, les opportunités peuvent arriver, et puis on est beaucoup plus en paix avec nous-mêmes, on arrive à écouter davantage la voix du cœur, et ces croyances ne sont plus limitantes, finalement. On se rouvre à la découverte, à la vie, à la surprise, à l'imprévu, finalement, parce qu'avoir des croyances, c'est aussi croire qu'on maîtrise tout et qu'on sait exactement comment les choses vont se passer. Or, la vie, je crois que ce n'est pas le cas.
Mmh. Tu parlais aussi du syndrome de l'imposteur que tu évoques, justement, parce que des fois, on ne s'autorise pas, en fait, à dépasser cela pour s'autoriser à être. Tu parlais aussi des notions de peur. Comment on peut réussir, justement, à dépasser tout ça pour être soi-même ?
Et oui, le syndrome de l'imposteur, c'est ce syndrome où l'on croit manquer de légitimité parce qu'on est trop jeune, trop vieux, qu'on n'a pas assez d'expérience, qu'on n'a pas assez de formation ou de diplôme. Et c'est un syndrome finalement qu'on retrouve très souvent, que le mental nous fait miroiter à chaque fois qu'on essaye de sortir finalement de ce qu'on connaît, de notre zone de sécurité, que moi j'appelle, finalement de ce qu'on maîtrise et de nos compétences reconnues. Comment se sortir de ça? C'est déjà se donner le droit. Je crois que c'est la première étape, de ne pas attendre que la société nous donne le droit, mais de s'autoriser soi-même. Moi, lorsque j'ai commencé à me lancer dans mon activité, je me suis moi-même donné le droit. Je n'ai pas attendu que la société reconnaisse que j'avais le droit à 22 ans, lorsque j'ai commencé d'accompagner les autres, de parler de ces sujets. J'ai décidé de me donner moi-même le droit, de prendre les choses en main, de faire le premier pas. Et ce n'est pas de la prétention, je crois qu'on peut faire ça avec, en toute humilité, en étant dans le partage et non un enseignement vertical de « moi je sais et vous je ne savez pas ». Je crois qu'on peut simplement partager pour le plaisir de partager et également pour le plaisir de laisser exprimer ce qu'il y a en nous, de faire ce que notre cœur nous appelle à faire. C'est déjà la première étape de se donner le droit. Et ensuite, c'est voir que la légitimité, on l'a déjà parce que, et on a l'envie, et c'est quelque chose qui nous parle. Donc bien souvent, on a une forme d'expertise que d'autres n'ont pas parce que c'est ou une expérience qu'on a vécue dans notre corps. Par exemple, quelqu'un qui veut être accompagné les autres, je ne sais pas moi, dans la difficulté financière, par exemple, parce que lui-même a vécu cette expérience-là de la difficulté et qui aujourd'hui, dans son métier ou dans son activité, est sur ce thème-là. Donc, notre histoire, nous donne une grande légitimité parce qu'on sait ce que c'est. Mm-hmm. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et puis aussi, voilà, de se donner soi-même la légitimité parce que les autres reconnaissent en nous naturellement certaines choses. Je vous disais tout à l'heure que moi, je suis quelqu'un qui communique facilement, qui n'a pas peur de m'exprimer, de parler en public, etc. Mais on a chacun de nous des choses que l'on fait naturellement, mais que parce qu'on ne les a pas appris ou qu'on n'a pas souffert ou qu'elles nous viennent avec facilité, on a l'impression qu'elles ne valent rien. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et ces qualités-là, ces talents-là, cette lumière-là, quand on sait les reconnaître et quand on ose en faire quelque chose, alors notre légitimité, elle est toute née. Elle est déjà là.
Et on va être obligé de conclure sur ces jolies paroles et je vous laisserai aller voir tes vidéos parce que là tu parles un petit peu de tout ça, de lire ton livre parce que tu développes encore plus ça. Mm-hmm. Et là, c'est malheureux, j'aurais aimé discuter plus longtemps avec toi Jenna, mais cette seconde émission de Prisme touche à sa fin. Merci d'avoir partagé ces 30 minutes de voyage avec nous. Un grand merci à toi Jenna pour le partage de ton
merci
histoire et de nous avoir apporté ton regard très lumineux sur la vie. Allez découvrir
merci
son livre.
Beaucoup.
Merci Gaëlle à la réalisation. Cette émission sera très bientôt disponible en podcast sur notre site. Vous y retrouverez les références du livre de Jenna et les liens vers son site et ses vidéos. Je rajouterai juste cette citation de Wayne Dyer, qu'on trouve d'ailleurs dans ton livre. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Avant de conclure, je pense à Jacqueline, particulièrement aujourd'hui, notre première invitée de Prisme. Où que tu sois, merci pour tout. Bon voyage, mon ami. Je vous dis au mois prochain, même émission, même heure, mes nouvelles invitées et nouvelle histoire. À très très vite.